Es-tu le seul qui a trouvé la conférence de presse vendredi dernier de Donald Trump et Elon Musk, appelons ça particulier, mettons, ouais, comme moment?
C'est-tu une vraie bromance ou ça l'est pas?
Ben, c'est-tu une vraie séparation ou ça l'est pas non plus? Puis l'œil au bernoir de Elon Musk, ça arrive de où, selon lui, son enfant, en jouant avec son enfant? Ouais. Mais tout était comme hors de l'ordinaire, là.
Oui, puis avec le New York Post qui avait sorti en matinée le fait qu'Elon Musk consommait régulièrement des drogues, ouais, notamment de la kétamine.
Non, c'était bien particulier, ouais, en tout cas. Là, tu te poses bien des questions, surtout consommation de drogue, des décisions prises par Elon Musk au cours des derniers mois. On va en jaser avec le chroniqueur Luc Laliberté, ex-enseignant de l'histoire américaine au Cégep Garneau. Vous l'entendez régulièrement à Rage Against le matin. Il est au bout du fil. Luc, bon lundi.
Ouais, bon lundi à vous deux.
Hey, merci d'être là, Luc.
Ça fait plaisir.
Es-tu le seul qui a trouvé ça un peu particulier, voire bizarre, ce point de presse-là, Donald Trump, Elon Musk?
Non, c'est bizarre. Puis écoute, on mêle des choses qui sont surréalistes avec des choses qui ont un impact bien réel dans la vie de nombreux Américains. La rencontre de vendredi, première chose, faut pas se tromper, c'est comment rendre une séparation qui était devenue toute fin pratique inévitable, présentable ou acceptable. C'est-à-dire que quand on va chercher l'homme le plus riche de la planète, qu'on le fait entrer à la Maison-Blanche et qu'on lui fait confiance pour, c'est ni plus ni moins ce qu'on demandait, là, faire le ménage dans la fonction publique, il faut qu'on ait des résultats, puis il faut donner l'impression que ça va bien, que ça a été très efficace. Parce que quand on voit Elon Musk et Donald Trump ensemble, c'est pas la première fois de l'histoire qu'un président va être près de gens qui ont énormément d'argent. Ça coûte cher, la politique américaine. Ça coûte cher pour le Sénat, la Chambre des représentants, mais pour obtenir la présidence. Donc, il y a souvent, puis moi, c'est un reproche que j'ai contre le système américain, c'est à quel point l'argent prend de la place dans ce système-là, qu'on soit démocrate ou républicain. Mais quand on voit apparaître Elon Musk et qu'il est dans l'appareil gouvernemental, là, c'est une autre game. On parle carrément, littéralement, ouvertement de conflits d'intérêts. Donc, le gars dit, moi, je vais faire le ménage, je vais réduire les dépenses de l'État, je vais réduire le nombre d'employés de l'État. Ça, il y a plein de gens qui en rêvent. Hein? Puis au Québec, au Canada, ce sont des choses dont on parle aussi.
Oui, on a entendu parler, justement, Luc, là, durant le mandat d'Elon Musk. « Ah, oh, ça nous prend un Dodge au Canada, ça nous prend un Dodge au Québec. »
Et moi, ce que je répondais, c'est... On en rêve tous de ça, hein? C'est l'expression consacrée, c'est dégraisser le mammouth, là. regardons juste la santé avec M. Dubé, là, et c'est pas facile.
Ouais.
C'est pas un message pour ou contre la CAQ ou pour ou contre M. Dubé. C'est quand on s'attaque à des machines aussi grosses que ça, c'est très, très, très difficile d'y parvenir. Et Elon Musk y est allé, lui, pas de manière chirurgicale. Il n'a pas fait appel à des experts pour dire voici comment fonctionne le système, puis voici où on peut effectuer des coupes. C'est l'image de la CHN qui est restée, puis ça correspondait un peu à sa façon de procéder. Des mises à pied en grand nombre, on a tenté de fermer des ministères aux États-Unis, donc des ministères ou des départements, là, dont celui de l'éducation.
Hey Luc, je t'interromps deux secondes. Oui. Y a-tu fait une bonne job, Elon Musk, ou non?
Ben voilà, c'est là où je m'en allais. C'est quand on regarde ça, puis qu'on pense à la rencontre de vendredi, les résultats sont très, très mitigés. On est loin d'avoir un succès. Et pendant longtemps, même, pour certains aspects, c'est carrément gênant parce que les tribunaux sont venus rappeler à Elon Musk et à Donald Trump, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, le président a des pouvoirs, mais ils ont une limite, ces pouvoirs-là. Puis là, vous empiétez, vous faites une job qui n'est pas la vôtre. Donc, quand Elon Musk se présente vendredi, c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Un gigantesque conflit d'intérêts, quelqu'un qui prend des décisions qui peuvent l'avantager, puis un bilan de sa présence aux côtés de Donald Trump qui est mitigé. Et là, on se tourne vers M. Trump, et Donald Trump, lui, doit dire, ben écoutez, on a mis l'accent là-dessus, hein, c'était un gros, gros volet de notre programme, c'était très, très spectaculaire. Elon, il s'en va, mais en même temps, M. Musk va rester un ami puis un conseiller de l'extérieur, quelqu'un à qui on va discuter. Mais on essaie de rendre ça positif vendredi. Donc, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on peut avoir d'autres surprises? Est-ce que ça peut donner plus de retombées positives? Attendons voir. Mais au bout de 4 mois, les résultats sont, je me répète, mitigés.
Hey, puis, Luc, c'était juste le but de l'exercice, c'est comme d'enlever Elon Musk de l'œil du public et des médias, mais que finalement, il reste là, mais dans l'entourage de Donald Trump, mais plus invisible ou pas pantoute?
Ben, c'est-à-dire qu'il va être plus influent que la grande majorité des Américains parce que la ligne reste ouverte entre les deux. Mais on le sort de là, puis on le sort de là, je pense que c'est bon pour lui, puis c'est bon pour Donald Trump. Elon Musk, quand on regarde, il a tiré des bénéfices de sa présence là, au sein de l'appareil parce que on l'a laissé intervenir dans des dossiers qui pouvaient avantager ses entreprises à lui. Mais en termes d'image, quand on regarde à l'échelle de la planète, puis quand on regarde, par exemple, le cas le plus flagrant pour nous, c'est Tesla. Là, c'est, on a vu des images de gens qui boycottaient Tesla, qui ont brûlé des Tesla. Donc, en termes de meneur ou d'inspiration, parce qu'Elon Musk, malgré des controverses, inspire beaucoup de gens sur la planète, disons, côté image, pour ses compagnies et pour lui, le jeu politique, ça a été difficile. Donc, c'est mieux pour Elon Musk, je pense, de retourner, donner l'impression tout le moins qu'il s'implique dans ses compagnies et qu'il va relever des défis technologiques pour lesquels il y a plein de gens qui l'admirent. Donc, je pense qu'il retourne là. Puis, du côté de l'administration, Elon Musk devenait de plus en plus critique de l'administration Trump. Par exemple, sur le dernier budget, Elon Musk dit « Écoutez, vous m'avez fait venir au gouvernement pour sauver de l'argent et le budget que veut faire passer Donald Trump, qui accorde de généreuses réductions d'impôts aux gens, aux ultra-riches de la société américaine, ce que vous faites, c'est que vous creusez le déficit, puis vous le creusez plus que ce que moi j'ai pu apporter. » Donc, il devenait de plus en plus critique de la politique de l'administration. Et ben, il y a eu des confrontations à l'interne entre Elon Musk et d'autres conseillers de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle je dis, ben, vendredi, ce dont on a eu, ce qu'on avait comme impression, c'est ben, deux chums qui se séparent à l'amiable, hein, deux personnes qui semblaient avoir développé une complicité. Mais je pense que ça servait, grosso modo, d'opération charme, d'opération de spin, comme on dit parfois en anglais, pour donner au départ d'Elon Musk une façade ou un volet un petit peu plus positif.
Luc, on fait un saut au Colorado avec l'attentat qu'il y a eu hier concernant le conflit Israël-Gaza, Israël-Palestine. Est-ce que dans l'histoire, toi qui es un ancien enseignant d'histoire américaine au Cégep Garneau, il y a des pendants, il y a des événements comme ça qui sont arrivé également pour un conflit qui se passait à l'extérieur des États-Unis?
Malheureusement, hein, on le voit, oui. La réponse facile, puis je vais développer un peu après, la réponse facile, c'est oui. Puis c'est vrai un peu partout. On a vécu des manifestations ici, le pro-Israël ou pro-Palestine. Le cas américain, il est toujours particulier, puis je le dis en mettant des gants blancs et en souhaitant surtout pas que ça se reproduise ici. Mais aux États-Unis, c'est toujours l'intensité des réactions. On est plus souvent dans des réactions extrêmes qu'on va l'être de notre côté de la frontière.
Oui, parce que qu'au Québec, au Canada, on faisait des sit-ins sur les campus d'université, ben là, c'est une attaque au cocktail Molotov, là.
Voilà, puis écoute, juste avant de revenir un peu dans l'histoire, là, quand on regarde, le FBI documente ça, puis il y a d'autres organisations aussi qui documentent les réactions d'antisémitisme ou d'islamophobie, mais juste en 2024, là, les incidents associés à l'islamophobie depuis l'attaque là, du 7 octobre, depuis l'attaque terroriste du Hamas, écoute, c'est en 2024, c'est 200% d'augmentation. C'est 300% en fait, et 200% d'incidents liés à de l'antisémitisme. Donc, c'est particulièrement dramatique, catastrophique.
C'est énorme.
Voilà, puis ce qui est arrivé à Boulder, ben c'est on peut dire que regrettable, puis le mot est encore faible. Et ce qui est toujours impressionnant quand on enseigne l'histoire, c'est qu'on oublie parfois des événements précédents où on cible des populations. Parfois, c'est le gouvernement, parfois, c'est dans les manifestations, mais on cible des populations qui sont associées à des choses qui se passent à l'étranger. Et parfois, on peut dire, oui, ils sont ici, mais ils ont encore des liens avec la mère patrie ou avec leur terre de naissance. Mais d'autres fois, on s'acharne littéralement sur des groupes alors qu'ils sont pas associés à ce que va faire le pays d'origine. Puis juste, là, ça remonte avant ça, mais on pourrait faire que le 20e siècle. Les Allemands, dans la Première Guerre mondiale, par exemple, au fur et à mesure que les Américains vont se ranger du côté de la France et de l'Angleterre, parce qu'au départ, les Américains font du commerce avec tout le monde dans la Première Guerre mondiale. Ils font affaire aussi bien avec les Allemands qu'avec les Français et les Anglais. Mais plus on se rend compte qu'on va se ranger du côté des Anglais et des Français, il va y avoir beaucoup de manifestations, d'incidents violents contre les Allemands qui vivent aux États-Unis. Donc, il y en a beaucoup, hein, c'est un pays d'immigrants, les États-Unis. Donc, on va se tourner contre les Allemands. Certains vont même être détenus Puis contrairement à bien d'autres détenus de temps de guerre, eux ne vont jamais recevoir d'excuses par la suite. Pour te dire jusqu'où ça va, là, ou pour vous dire jusqu'où ça va, on associe souvent les Allemands à la choucroute. C'est plus complexe, l'origine du plat ou du mets.
Oui.
Mais on avait même rebaptisé la choucroute pendant la Première Guerre mondiale. On appelait ça le chou de la liberté. Donc, on voulait enlever le sauerkraut qu'on nous vend encore. Si on va aux États-Unis et qu'on achète de la choucroute, on appelle ça encore l'appellation d'origine. Mais pendant la Première Guerre mondiale, ça devient le chou de la liberté. On veut enlever tout ce qui est lié à l'Allemagne dans l'appellation du produit, parce qu'il y a bien des Américains qui aiment ça, et qui aiment ça encore. Mais donc, on veut tasser l'aspect, si on veut, culturel allemand du mets et de sa consommation. La Deuxième Guerre mondiale, c'était un autre cas. Les Allemands ont encore payé le prix. Les Allemands qui vivent aux États-Unis, là, qui sont pas en lien avec l'Allemagne, le pays qui, cette fois-là, est carrément responsable de la Deuxième Guerre.
Puis qui sont pas du tout en lien avec les politiques d'Hitler à ce moment-là.
Non, voilà. Puis je pense que certains de nos auditeurs, de vos auditeurs, qui doivent se rappeler aussi les cas de
concentration.
Non, c'est, non, pas aux États-Unis, c'est des camps de détention pour les Américains d'origine japonaise. Donc, parce qu'on est, cette fois-là, on mène la guerre sur deux fronts, on est contre l'Allemagne, mais dans le Pacifique, c'est le Japon qui est devenu l'ennemi. Puis on va donc retirer à des gens leurs droits et libertés. Et on a le droit de faire ça en temps de guerre, mais là, on avait littéralement ciblé les Japonais en disant, grosso modo, on va pas dans le détail, hein, on regarde pas s'il y a un lien bien réel. Le seul fait d'être d'origine japonaise suffisait à vous envoyer dans ce camp-là. Puis l'exemple le plus récent qu'on ait vu de ça, puis là, on peut comprendre aux États-Unis à quel point le choc a été brutal. Puis parfois, quand on est très émotif, quand on a peur, on verse très, très rapidement dans l'émotif, puis on dit, ben tous les moyens sont bons. Puis on met de côté les procédures habituelles. Mais c'est le 11 septembre 2001.
Ouais.
Le 11 septembre 2001, j'aurais pas aimé, et je suis allé aux États-Unis là, dans les mois qui ont suivi, et c'était très clair, à New York en particulier, que les musulmans étaient victimes de profilage. Mmh. Mais quand je passais la frontière avec mes étudiants, si aux yeux des douaniers, ils avaient un profil arabe, musulman, c'était très clair qu'on allait rester avec l'autobus plus longtemps à la frontière et que c'est eux qu'on allait faire sortir pour les questionner. Donc, encore là, on n'a pas fait dans la subtilité, on n'a pas fait dans le détail. Il y en a qui disent que c'est justifié par des actes qui étaient épouvantables. On a encore en mémoire le 11 septembre 2001.
Absolument.
Mais est-ce que ça fait de tous les gens qui sont issus d'un pays du monde arabe ou d'un pays musulman des terroristes? Il y a plus de terroristes blancs dans l'histoire américaine qu'il y a pu en avoir d'origine arabe. Donc, ça fait partie, hélas, de ces retombées. Quand on se trouve à importer chez nous, sauf dans le cas du 11 septembre, mais quand on se trouve à importer chez nous des conflits qui sont ailleurs, on fait parfois de nos voisins, finalement, des ennemis ou des gens dont on se méfie. Et c'est carrément ce qu'on a vu à Boulder. Et cette fois-là, à Boulder, c'est quelqu'un qui semble, j'ai pas lu son histoire à lui, mais c'est quelqu'un qui semble venir d'un pays arabe, qui est probablement de confession musulmane, et qui s'en est pris ouvertement à des manifestants juifs. Et en fait, c'est une manifestation tout à fait pacifique. C'est une démonstration de soutien. Donc, ces gens-là s'apprêtaient à aller faire une course à la mémoire ou pour commémorer les victimes du 7 octobre et les gens qui sont encore détenus. Ouais. Et là, on s'en est pris directement à ça. Alors là, c'est de l'antisémitisme, c'est très clair, c'est impardonnable. Mais on pourrait demain parler d'un geste islamophobe, puis ce serait tout aussi catastrophique parce que, je répète, on importe aux États-Unis le débat, le conflit qui est brutal, qui est horrible, mais qui se passe ailleurs.
Toujours très intéressant de jaser actualité et histoire avec le chroniqueur Luc Laliberté. Luc, merci pour ton temps ce matin. Toujours bien apprécié, cher ami.
Ben écoute, une bonne journée à vos auditeurs et à vous. Ça fait toujours plaisir.
Merci, à bientôt.
Salut Luc, merci beaucoup.
Bye. Salut. Toujours le fun de mélanger histoire et actualité avec Luc Laliberté.
On a-tu les chroniqueurs parfaits? On a eu Gab Giguère à 6h45 pour les barrières interprovinciales. Connaît le sujet sur le bout de ses doigts. Roger Ferland qui nous a parlé des techniques d'enquête pour justement des événements comme au Colorado. Et là, Luc Laliberté qui vient nous faire à la fois le pendant politique et historique de cet événement-là. Franchement, on est gâtés à Redjigan ce matin.
Autre jasette intéressante après la pause, on le sait qu'au prochain Jeux olympiques d'été, il va y avoir du flag football.
Oui.
On sait maintenant aussi qu'il y aura forte possibilité de joueurs de la NFL. On connaît la liste des 12 joueurs invités par l'équipe canadienne de flag football. Et sur cette liste-là, il y a Anthony Auclair. On va lui parler après la pause.